Ça, c'est qui l'invité dans la chemise à rayures?
Aucun souvenir.
Oh, je me rappelle plus non plus. Hein.
Philippe, c'est qui l'invité dans la chemise à rayures?
Bon, vous m'avez fait un conducteur. 30 secondes.
Oh purée, ça va être à nous. Oh, Elsa, t'as le café à côté de toi?
Les feuilles, vite, range.
Y'en a plus. Oh, on a plus de café, là.
Attends, on fait après l'émission.
Mon papier n'est pas imprimé, là.
Je m'en fous, j'ai pas le temps.
Bip, bip, bip.
Allez, on y va.
Je suis pas réveillée.
5 secondes.
Allez, dernière fois.
Zou.
Allez, les gars.
Bonjour à toutes et à tous.
On y va.
Allez, c'est parti.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Alors, chères auditrices et chers auditeurs, Chloé et moi-même, on est bien embêtés. On ne sait pas du tout comment va se dérouler cette émission, car notre animatrice, Audrey Barat, accuse un sérieux coup de mou. Eh ouais, c'est ce qui arrive quand on joue les groupies au concert de TFN.
Yeah, et blablabla, et blablabla.
Et TFN par
ci.
TFN par là.
Que ça. Et non, elle a fanfaronné toute la journée. Hein.
Fatigante.
Voilà, et puis voilà, ils seront en forme. Là. Tu vois, comme regarde leur trunch. Ce sont même, voilà, tout à l'heure, cet après-midi, ça va pas le faire. Hein. La prochaine fois, on leur achète le CD, puis voilà, ils se débrouillent.
Oui, et puis les vieux, ça sert à rien d'aller voir un vioc comme ça.
Puis t'as vu sa tête à Audrey, là?
Ah, c'est vrai que...
Elle a plus 20 ans, la petite, hein?
Ah, c'est moche, hein.
Ah ouais, là...
Ça se voit, il y a les cernes, là, comme ça, là, jusque... Ouf, pas joli, hein.
Ah non, là, c'est...
C'est
triste.
Ils auraient pas dû.
Et puis alors, elle est partie complètement en vrille, hein. Elle a perdu les pédales complets.
Totalement.
Elle raconte n'importe quoi.
Complètement. Elle sait plus se tenir.
Voilà.
Du début à la fin. À peine si elle nous reconnaît.
Oui, d'abord. À peine bonjour, hein.
Ah oui.
Mais ça, tous les matins.
Limite. Non, mais quand même, ce matin, c'était... Ah, c'était costaud ce matin.
Elle avait les yeux perdus vers le ciel, encore avec TFN. Oh, TFN, Hubert.
Il n'y en a que pour Hubert.
Que pour Hubert. Hein? Et voilà ce que ça donne.
Plus, mais à vue de nez, je dois en être à ma 113e cigarette sans dormir. Les tartines de concoyote que je viens d'ingurgiter n'y auront rien changé. J'ai fait un étrange rêve et je ne sais toujours pas si j'en suis sortie. Pour être en forme ce matin, j'aurais peut-être dû passer la nuit dans la chambre 2023. Mais un rock joyeux a soudain retenti, alors qu'on approchait de la dernière sortie avant l'autoroute.
La clarté morne et glaciale, un ténèbre sous les divers. Tu flottis comme un animal sous les tôles rouillées du Chrysler.
C'était là, juste au-dessus de nous. Je me suis faufilée dans l'ascenseur de 22h43 pour me rapprocher de ce doux bruit de bulles. Soudain, mon esprit se mit à flotter, tiraillé entre son penchant irrésistible pour la nostalgie de Dieu et son attrait implacable pour la philosophie du chaos. Un dilemme aussi sombre que les mathématiques souterraines. Et là, tel un animal en quarantaine qui n'aurait jamais vu la beauté d'un ciel de septembre rose, je m'en remettais au vent. C'est peut-être lui, le vent, elle, la brise, qui m'ont délivré cet étrange message. Une voix s'éleva et murmura à mes oreilles sourdes que j'avais enfin l'autorisation de délirer. Une fièvre résurrectionnelle s'empara de moi et jeta un scandale mélancolique dans la ruelle des morts. Était-ce de l'amour, de l'art ou du cochon? Peut-être avais-je tout simplement abusé de ces suites amanites phalloïdes queen qui poussait de manière indolente dans les jardins sauvages de la fille du coupeur de juin. Je me mis donc à errer ou manoumest, en faisant des adieux à ma condition de bipède à station verticale. Me libérant enfin du complexe d'Icare, je pris l'apparence d'une mouche bleue. La terre se mit à trembler et les mouches bleues à pulluler. J'étais partout. Le chant d'un fou s'élevait dans les airs et ce n'est que lorsqu'une tita dong dong song se mit à retentir que je remis instantanément les pieds sur terre. Clap de fin de partie.
Le paradis est troublé, l'enfer est malade. Mais le bonheur est double au bout de ma balade. T'es tombé dans mes bras par un après-midi de printemps forsythia aux paillettes en folie. Arthur, vous vous tâtez, tita donc, donc sang formé. Look at, look at me. T'as mis les cœurs à nu dans mon septembre rose. Heureusement que t'as dû grimper les échymoses. Il t'a mis dans son cœur de grand frère sioux guerrier. Et t'auras jamais peur si tu suis son sentier. Tata, tita donc, donc sang formé. Arthur, vous vous tata, look at, look at me.
À toutes et à tous, bonjour bande de Jolafouine de Radio Saint-Af. Je veux bien sûr parler d'Elsa Gourmand, de Chloé Baudry et de Manu Garcia et d'Elsa Decour qui m'ont fait un petit piège là. Donc j'ai enfin réintégré mon corps, c'est vrai, après une soirée déchaînée hier soir au Zénith de Toulouse. Et je peux reprendre le cours normal des choses et vous annoncer comme il se doit le contenu de l'émission du jour, tout simplement intitulé Vivement ce soir qu'on se couche, parce que là aujourd'hui ça colle parfaitement à la situation.
On imagine bien.
Voilà, il suffit de voir mes yeux, vous n'avez pas l'image, mais croyez-moi. Donc nous sommes le mercredi 30 novembre, le lendemain du 29 novembre, et la chemise à rayures n'ayant plus aucun secret pour elle, Elsa Decour, elle nous propose aujourd'hui deux sujets. Alors le premier s'intéresse au travail de collecte de la mémoire orale de Roquefort menée par l'Office de tourisme de la ville. Le second nous parlera de Frédéric Chopin, qui est l'objet d'une conférence proposée par l'Association culturelle du Sud Aveyron demain. La chronique du jour, elle porte le nom énigmatique de 3A248, elle est communément appelée chronique de la maison de la mémoire. Et Florian Boulet vous fait découvrir le passé de la Vilotte. Et cette fois-ci, on ne passera pas par la case départ, on ira directement à la prison. Mais avant ce beau programme, il faut savoir que l'hiver, Elsa Gourmand a froid, très froid. Elle allume donc son poêle avec des feuilles de journaux. Mais avant ça, elle les lit, ces journaux. Si, si, je vous jure.
Chou.
Falaise.
Bah pourquoi chou?
Bah parce que feuille.
Ah!
Tu les lis, ces journaux, Elsa, je ne me trompe pas, et tu vas commencer par les titres des quotidiens nationaux.
Effectivement, je les lis.
Hein. Bravo.
Ouais. Donc, les titres, Le Monde, l'UMP veut un code pénal des mineurs. Alors, dès l'âge de 12 ans.
Voilà.
Hein. Ils font rien à moitié. Le parti présente donc son projet sécurité pour 2012. Faut croire que les précédents n'ont pas marché. Le Figaro, Syrie, des centaines d'enfants torturés à mort. Le régime de Bachar el-Assad est accusé de crimes contre l'humanité par un rapport accablant de l'ONU. À ce propos, il y avait une excellente émission 3D. Alors, c'est tous les dimanches à midi.
C'est fabuleux.
Et dimanche dernier, ça portait sur la Syrie où effectivement, il parlait des enfants qui étaient torturés.
Elle est fabuleuse cette émission. Voilà. C'est un petit peu un idéal pour moi. C'est...
Une heure et demie et ils abordent les sujets vraiment à fond avec des invités de qualité.
Ouais.
Le Parisien, après les révolutions, les islamistes s'imposent. Alors, ce titre est accompagné d'une photo étrange. On voit deux petites nanas top moumoutes avec téléphone portable, jean moulant, lunettes de soleil, petit foulard sur la tête, qui regardent avec circonspection une femme qui se tient devant elle, femme couverte d'une burqa. Voilà, c'est une photo prise en Égypte. L'Humanité propose un dossier sur sida et travail, avec deux malades qui témoignent des discriminations qu'ils subissent au travail. L'UMA qui a aussi rencontré des invisibles de l'aide sociale. Ce sont des personnes qui, faute d'informations ou rebutées par les multiples démarches administratives, renoncent à l'aide sociale à laquelle ils auraient pourtant droit. Et l'UMA nous dit que ces personnes-là sont bien plus nombreuses que les fraudeurs. La Croix titre sur une Europe sans frontières. Pour mieux se former, la Commission européenne souhaite doubler le budget du programme d'échange Erasmus et élargir son public. Et Libé s'intéresse aussi à l'Europe, mais d'une toute autre façon. Présidentielle, l'Europe s'en mêle. Rigueur, souveraineté, la révision des traités européens envisagés par Paris et Berlin réveille la fracture entre WIST et NONIST. Ça faisait longtemps. Alors à propos de Libé... Hier, je faisais référence à sa une, guéant la voix de Le Pen, à propos de sa volonté de s'en prendre à l'immigration légale. Et le ministre de l'Intérieur réagissait hier sur RTL au micro de Michel Apathy.
Il est 7h49 et donc ce matin sur RTL, Jean-Michel Apathy, vous êtes avec le ministre de l'Intérieur.
Bonjour Claude Guéant.
Bonjour Jean-Michel Apathy.
Libération ce matin vous stigmatise, Claude Guéant.
Oui, j'ai vu ça, oui.
Guéant, la voix de Le Pen.
Oui. J'ai vu ça.
Comment avez-vous réagi en le voyant ?
Bah, écoutez, j'ai tendance à considérer que Libération ne sait plus quoi faire pour retrouver l'électeur qu'il a perdu, parce que vraiment, je n'ai rien à voir avec le Front National, rien de commun avec le Front National, et je dois dire que il y a bien sûr beaucoup de Français qui sont en attente en matière de sécurité, en matière de maîtrise de l'immigration. Mon devoir de ministre de l'Intérieur, c'est de répondre à ces préoccupations, d'y répondre d'une façon républicaine, et c'est ce qui me différencie fondamentalement du Front National.
Or, Libé, hier, interrogeait aussi Michel Ferrer, philosophe et président du collectif Cette France-là.
Alors, qu'est-ce qu'il nous disait, ce Michel Ferrer ?
Eh bien, il nous disait que dans un contexte d'austérité imposée, le président comprend rapidement qu'il n'a plus grand-chose à offrir, sinon la préservation du triple A pour les épargnants âgés et la protection contre le fantasme du péril migratoire pour ceux qui veulent y croire. Aussi, le temps n'est-il plus à la gymnastique oculaire, à droite toute, quitte à briser les dernières digues entre l'UMP et le Front National. Ce qui donne les propos de Claude Guéant sur le trop d'étrangers en France. Pourtant, cette fuite profite davantage au Front National qu'au chef de l'État. Et surtout, en dépit des efforts du pouvoir, des sondages récents nous indiquent que seuls 10% des personnes se disent préoccupées par l'immigration et 61% se déclarent favorables au vote des étrangers ou aux élections locales. Voilà, il a tout faux, Guéant. Il a tout faux.
Et chez nous, on revient dans le sud, que dit Midi Libre ?
Alors, le Midi Libre titre sur les pestiférés du PS réintégrés. Il s'agit des élus qui avaient soutenu Georges Frêche pendant les régionales de 2010 et qui retrouvent leur place au sein du PS. Ils sont tous très contents. Il y a une photo où on les voit hilares. Voilà, un autre titre, un frère des béatitudes à la barre, c'est Pierre-Étienne Albert, est jugé à Rodez pour attouchement sur 38 enfants de moins de 15 ans. Mmh. Alors à ce propos, un aparté, c'est dans le Canard enchaîné, Bayrou, béat d'admiration. Mise en cause pour des affaires de pédophilie, de droits de cuissage et de manipulation mentale, la communauté catholique des béatitudes a trouvé au moins un défenseur, François Bayrou, interrogé par VSD. Le candidat à la présidentielle lance tout de go. Ce sont des gens infiniment respectables, je les estime. Cela fait 35 ans que je les vois vivre dans mon village. Le Béarnais et son épouse assistent régulièrement aux messes de cette communauté que le Vatican tente aujourd'hui de reprendre en main. Cela fait pourtant plus de 20 ans que les médias et la justice se font régulièrement l'écho des frasques des béatitudes. entre les pseudo-guérisons miraculeuses, les violences sexuelles infligées aux adeptes par les gourous de la communauté et les soupçons de détournement de biens, Bayrou avait largement de quoi se faire une religion. Voilà, pour les béatitudes. Puis il y a les universités aussi, hein, qui sont dans le rouge. Ça, c'est au niveau national. Plus d'une université sur deux pourrait présenter un budget en déficit en 2011. Inquiétant, donc c'est, tout ça, c'est dans le deuxième cahier du Midi Libre.
Et dans les pages locales, qu'est-ce qu'on trouve aujourd'hui?
Alors, deux sujets retiennent plus particulièrement l'attention. À Millau, tout d'abord, la pauvreté en augmentation chez les jeunes. C'est le Secours catholique qui tire la sonnette d'alarme. 11,3% des moins de 25 ans sont touchés par la grande précarité dans le département. Et à Millau, il y en aurait encore plus. Alors cette précarité se matérialise par une certaine forme de désocialisation et une rupture familiale. Des jeunes qui sont sans emploi et qui ne bénéficient pas du RSA. Voilà, ils se contentent pour vivre de quelques allocations sociales et leur revenu moyen est de 547 euros.
Bien et l'autre titre, Elsa ?
Les Costes-Gozon. Un parc de 10 éoliennes en projet. Un projet qui provoque la polémique dans les villages de Saint-Rome-du-Tarn et aux Costes-Gozon. Alors les élus ont lancé un appel au calme et prétendent que certains riverains font la confusion avec le nouveau transformateur haute tension dans la commune de Saint-Victor et Melvieux. Donc les deux édiles rappellent que ce parc de 10 éoliennes sera raccordé sur les lignes existantes et non à celles à haute tension. Voilà. L'enquête publique doit se terminer le 16 décembre. La mise en fonctionnement est prévue pour 2014. Voilà. Et ce parc pourra alimenter l'équivalent de la consommation de 18 000 personnes.
Et à ce sujet, peut-être que vous vous en souvenez, mais Delphine, qui était en stage chez nous la semaine dernière, elle avait interviewé un des opposants à ce projet. Et Elsa Decourt, quant à elle, doit interroger les maires des deux villages qui pourront donc argumenter à volonté sur cette question. Je ne sais pas encore quand est-ce qu'on a prévu cette interview.
Part en Espagne maintenant. Alors, avec un retour sur les dernières élections législatives du 20 novembre, le Courrier international nous propose un portrait du nouveau chef de l'exécutif espagnol, Mariano Rajoy.
C'est toi qui t'es couché tard.
Non, même pas. Un article paru dans ABC, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, un journal de Madrid. Donc, ils nous font le portrait de ce monsieur qui a 56 ans, qui a eu une enfance qui se déroulait pépère dans le cadre de l'Espagne des années 60. Une famille de la classe moyenne aisée, un père juge, une mère au foyer, quatre frères très unis, les bonnes notes dans le secondaire, l'apéritif familial les dimanches, les vacances d'été avec les amis à la plage, les valeurs qu'on lui a transmises, l'effort, l'étude, le mérite, le travail et bien sûr l'amour de l'Espagne. Donc il a eu un parcours, c'est un homme politique dans toute sa splendeur. Il a été élu député au Parlement de Galice à l'âge de 26 ans, puis il a gravi les échelons de la vie politique tout petit à petit, voilà. Et donc il est désormais le nouveau chef de l'exécutif espagnol, mais il hérite d'une situation économique plutôt catastrophique. Marianne nous donne quelques indications sur la situation économique du pays. Taux de chômage, 21,2%, le record d'Europe. Taux de chômage des moins de 25 ans, 44%. Nombre de chômeurs sans indemnité, 200 000, sur près de 5 millions au total. Salaire minimum, 641 euros. Taux de croissance, zéro en 2011. Déficit public, 6,2. Et l'âge de la retraite, 67 ans.
C'est
avec le nombre de chômeurs, on va
non,
faire
Non, mais il
possible.
Fait beau en Espagne, c'est ouais. bien connu.
Alors, on va en revenir aux élections proprement dites. Partout, on a titré victoire écrasante pour le Parti populaire. La veille même des élections, hein, on annonçait déjà cette victoire, à se demander s'il était d'ailleurs vraiment nécessaire que les Espagnols se rendent aux urnes. Victoire écrasante, donc, du Parti populaire. Sauf que, nous dit Politis, c'est une victoire en trompe-l'œil. Et suit une analyse un peu plus fine qui nous apprend que le PP, Parti populaire, ne doit son succès électoral qu'à un effondrement du Parti socialiste qui a obtenu le score le plus faible de son histoire. Ils ont récupéré 111 sièges et ils ont fait 28%. Et puis surtout, il y a eu un taux d'abstention record. Il y a eu 47% seulement de participation. C'est un... Quand on réfléchit bien, c'est quand même énorme. C'est donc surtout une perte de confiance dans les deux grands partis traditionnels qui s'est exprimée dimanche. Et le sentiment s'est installé que la gauche socialiste faisait la même politique que la droite, alors que, facteur aggravant, c'est d'elle que l'on attendait une politique de justice sociale. Et puis l'autre manifestation de cette perte de confiance dans les deux grands partis, c'est la montée des petits partis. Alors, il y a le IU, je ne prononce pas le nom intégral en espagnol de ce parti. C'est la Gauche Unie, c'est un peu l'équivalent de notre Front de Gauche. Ils sont passés de 2 à 11 députés. Et c'est le principal bénéficiaire des voix perdues au PS. Et puis, il y a aussi, au plan régional, le parti nationaliste catalan. Pareil, le GU.
T'es plus à l'aise avec l'anglais, c'est clair.
Ah ouais, ouais. Qui devance pour la première fois le Parti Socialiste en Catalogne avec le nouveau parti. Et il y a aussi le nouveau parti indépendantiste basque, à Mayur. C'est un truc comme ça, tu vois, qu'obtient 7 sièges, soit 2 de plus que le parti nationaliste basque. Et puis il y a les écologistes aussi qui font leur entrée au Parlement avec un siège. Voilà, alors, Politis conclut, il se pourrait qu'un nouveau paysage politique soit en train de se redessiner, qui bousculerait profondément le bipartisme traditionnel de ce pays. Moi, ça me donne des idées. Hein? Je vais m'arrêter là.
Écoute, tu vas t'arrêter là. Et donc, cette semaine, c'est un petit peu une tradition. On conclut cette rubrique Chou et Fadaise par nos amis de La Roulotte. Et là, si vous êtes bien attentifs, les premières notes devraient vous rappeler une chanson bien connue. Alors, vous avez reconnu La Roulotte, L-A-E dans la T-I-T-I-A. C'est un de nos CD de la semaine. Donc, La Roulotte qui a repris un morceau de Serge Gainsbourg. C'est Nino qui va être content pour l'atelier de couture. Un bon préambule à la chemise à rayures du jour.
La chemise à rayures.
Info, invité, reportage.
Sur Radio Saint-Afrique.
Dans la chemise à rayures aujourd'hui, Elsa Decourt a voulu en savoir plus sur un énorme chantier culturel lancé par l'Office de tourisme de Roquefort, collecter la mémoire orale des habitants du village en les interrogeant sur leurs souvenirs liés au métier du fromage. Rencontre avec la responsable du projet, une certaine Katia.
Je m'appelle Katia Fersing, je suis ethnologue et je travaille en tant que chargée de mission patrimoine et culture à l'office de tourisme de Roquefort. Alors ce qu'on fait jeudi, en fait, c'est une réunion publique comme il y en a tous les deux mois maintenant. Et ces réunions publiques, elles se rattachent à un projet plus global qui traite de la sauvegarde, de la valorisation et de la transmission de la mémoire orale de l'AOC Roquefort. Voilà. Donc là, on travaille plus sur la mémoire orale des habitants du village de Roquefort, mais le travail, il porte sur un territoire plus grand que le seul village. Donc ça fait depuis le mois de septembre 2009 qu'elles existent. Au début, on les faisait une fois par mois et maintenant, c'est une fois tous les deux mois. Et à chaque fois, on traite d'un thème différent.
Et c'est à l'initiative de l'Office du tourisme de Roquefort ?
Oui, tout à fait. Oui, ce projet, il est porté par l'Office de tourisme de Roquefort. Et donc indirectement, il est soutenu évidemment par la commune. Et il est en route depuis 2008, par contre.
C'était quoi les anciennes réunions publiques ? Vous avez abordé quoi comme thème ?
Alors, on a parlé, par exemple, de l'ancien cinéma du village. On a parlé des fêtes religieuses et cycliques qui parsemaient la vie de la communauté tout au long de l'année. On a abordé les anciens commerces. On a aussi parlé de la clique, donc c'était le groupe musical de Roquefort. On a parlé de la toponymie plusieurs reprises. Et donc là, on revient sur la toponymie le jeudi 1er décembre pour repréciser en fait certains noms de lieux sur lesquels on est en train de travailler. Donc on cherche à avoir plus d'informations.
Qu'est-ce que c'est exactement la toponymie ?
La toponymie, c'est l'étude des noms de lieux. On va aborder l'étymologie, on va aborder le contexte un peu historique, socio-historique aussi. Enfin, on va parler de tout ce qui entoure ce nom de lieu. Alors là, on aborde ces noms de lieux à travers l'oralité, puisqu'on invite les gens donc à partir de cartes ou d'anciens plans, cadastres, à nous livrer leur façon de dire l'espace. Mais on confronte aussi ce que nous disent les personnes à ce qu'on trouve dans les écrits. Voilà, c'est ça qui est intéressant dans la démarche, c'est qu'on va vraiment travailler et sur l'écrit et sur l'oral.
Donc jeudi 1er décembre à 14h30, vous faites une réunion sur ce thème-là.
Voilà.
Et vous avez un invité, de qui s'agit-il ?
Donc c'est Jacques Astor qui va nous accompagner sur cette réunion, comme sur toutes les réunions qui ont concerné la toponymie, puisque lui, il est linguiste et donc c'est vraiment son domaine. C'est quelqu'un qui travaille sur ces questions depuis très longtemps et donc je pense qu'on ne pouvait pas trouver un meilleur accompagnateur. Voilà.
Et c'est principalement des gens du village de Roquefort qui viennent vous voir ou des alentours aussi ?
Alors, les gens qui viennent aux réunions, ils sont d'une façon ou d'une autre, ils sont reliés au village de Roquefort ou à la fabrication de ce fromage, en fait. Soit ils vivent actuellement sur le village ou à l'Auras, mais aussi dans les villages alentours. Mais quoi qu'il en soit, c'est des gens qui ont quelque chose à voir avec le processus de fabrication fromagère. Ils ont travaillé de près ou de loin dans ce processus, là où ils ont vécu au village.
Qu'est-ce que ça leur apporte, en fait, ces journées, vous avez l'impression ? Est-ce que ça crée des liens entre les gens ?
Je sais pas, moi, il faut leur demander à eux. Non, ça, c'est pas que ça crée des liens, c'est que peut-être ils sont contents de se retrouver bien souvent parce que chacun a fait son chemin, chacun est parti ou pas, mais c'est vrai que des fois ils se sont pas vus depuis quelques temps ou depuis pas mal de temps parfois. Et donc ils sont contents de se retrouver et puis de réaborder évidemment des thèmes et des choses qui leur sont chères, en fait, qui font partie de leur vie, de la façon dont ils ont vécu ce village. Donc c'est vrai que c'est assez fédérateur, ces réunions. Alors ça varie, on a plus ou moins de monde suivant le jour, le moment. Des fois les gens sont libres, des fois ils ne le sont pas. Mais quoi qu'il en soit, on arrive quand même à toujours avoir un petit groupe de travail. Tout ce travail en fait qui est fait dans les réunions publiques, a priori il y aura une restitution de ce travail dans le cadre d'une veillée qu'on organise au mois de mai 2012. Donc il y a encore un peu de temps pour l'annoncer, mais voilà.
Si vous souhaitez apporter votre pierre à l'édifice de cette collecte de mémoire, n'hésitez pas à vous rendre demain à la salle Benjamin Crouzat à 14h30. C'est en face de la mairie de Roquefort et pour les connaisseurs, c'est l'ancien café du Globe. Demain toujours, mais à Millau, l'association culturelle du Sud Aveyron vous invite à une conférence musicale autour de l'œuvre et de la vie de Chopin.
Bonjour, Nicole Ponce, je suis présidente de l'association culturelle du Sud Aveyron à Millau, qui organise des conférences sur Millau même et sur Sainte-Afrique, sur des thèmes extrêmement variés, car nous essayons de mettre à la portée de tous des sujets divers, pouvant toucher aussi bien aux scientifiques, à l'historique, au patrimoine, puisque c'est au départ la vocation première de l'association culturelle du Sud Aveyron, qui était autrefois UPSR, et nous avons aussi des thèmes de société, par exemple dernièrement nous avons fait quelque chose sur les diverses religions et beaucoup de thèmes également artistiques. Récemment, nous avons eu à Sainte-Afrique une conférence sur Dali, donc la prochaine conférence est une conférence musicale. Alors, ces conférences se passent à Millau, au Créa, qui est au centre-ville, et dans la salle René Rieu. Nous donnons ces conférences en général l'après-midi à 15h pour évidemment un public qui ne travaille pas, mais c'est ouvert à tout le monde et on essaie d'ouvrir le plus possible, pas seulement à des personnes retraitées, mais à d'autres personnes. Quelquefois, c'est un peu plus tard, comme là, après-demain. Mais donc, en général, c'est toujours un jeudi à 15h, salle René Rieu, du Créa à Millau. Nous avons assez de monde, un public qui est fidèle. Nous tournons en moyenne autour de 90-100 personnes, parfois un peu plus, parfois un peu moins. Mais nous avons, je crois, réussi à fidéliser notre public par justement cet abord d'une culture qui est sans tabou, sans préjugés, qui s'adresse à tous, sans aucune note, bien sûr, politique ou autre. Vraiment une découverte du monde pour essayer de comprendre et le passé et le présent sur des questions qui posent des points d'interrogation et qui offrent un sujet de réflexion. Ça, c'est notre objectif.
Donc demain soir, qu'est-ce que vous proposez à la salle René Rieu ?
Nous proposons ce qu'on peut appeler une conférence-concert ou conférence musicale. Nous avons en effet deux intervenantes qui sont toutes deux de brillantes musiciennes, l'une au piano, l'autre à l'alto, qui sont toutes deux diplômées universitaires en musicologie avec des masters 2, donc vraiment de très haut niveau, qui ont remporté toutes deux dans leur domaine respectif des prix ou des concours. Elles vont nous parler, l'une d'entre elles va nous parler de la vie tumultueuse de Frédéric Chopin, de ses années de jeunesse à Varsovie, des années parisiennes ensuite, en essayant de montrer ce que Chopin a apporté du point de vue des nouveautés pianistiques. Quel virtuose il a été, quel concertiste aussi, un peu timide au début et s'affirmant ensuite, comment il a marqué le romantisme et s'est imposé face par exemple à Berlioz ou Liszt, quelles sont les influences qu'il a subies lui-même et comment également il a influencé la musique qui a suivi. Alors ça, c'est Charlotte Pace, P-U-I-S, qui va nous faire cet exposé. Et tout cela va être illustré par des interventions au piano d'Angélique Sauvin, qui est originaire de la cavalerie près de Millau, qui a été élève au lycée de Jean Vigo de Millau. Et c'est là d'ailleurs que je l'ai connue, évidemment, en tant qu'enseignante moi-même. Et elle va nous présenter des études nocturnes et autres morceaux qui pourront servir de vraiment appui pour l'exposé de son amie Charlotte Pace.
Donc c'est demain soir à 20h30 à la salle René Rieu.
Voilà, c'est ça. Salle René Rieu au Créa, 10 boulevard Sadi Carnot à Millau.
Merci à Elsa Decour pour cette belle chemise à rayures du mercredi 30 novembre. Et là, on est tous d'accord dans le studio, c'est trop court. Encore un peu de Chopin, ça nous changera. Et puis là encore, Serge, il n'est pas très très loin. Frédéric Chopin, étude en mi mineur, opus 30, numéro 3, Tristesse par Samson François au piano. Ça vous rappelle peut-être une chanson de Gainsbourg en duo avec sa fille Charlotte. Bravo, bravo, bravo. Serge Gainsbourg a écrit Lemon Incest sur cette mélodie de Chopin. Vous êtes bien sur Radio Sainte-Afrique dans Vivement ce soir qu'on se couche parce que le Zénith de Toulouse, ben c'est loin. Nous sommes mercredi 30 novembre et le mercredi c'est 3 à 248. Grâce à Florian Boulet, vous comprendrez que si un petit vieux de Saint-Af vous dit que dans sa jeunesse il s'est baigné dans la piscine de la prison, bah peut-être que c'est vrai.
. 3A 246. Chronique de la maison de la mémoire. Donc la prison de Saint-Afrique, tu es parti de quel document ?
Alors j'ai utilisé pas mal de plans, quelques cartes postales et puis le tout complété avec différentes archives pour avoir un peu plus d'infos. Tout d'abord, une prison à Saint-Afrique, ça peut paraître un peu étonnant. Et en fait, ça remonte à la Révolution française, donc avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La liberté devient une valeur suprême. Et donc toutes les peines corporelles, qui étaient les conséquences de la justice d'avant, sont remplacées par la privation de la liberté. Et en 1791, le code pénal prévoit que partout où il y a un tribunal, il devrait y avoir des maisons d'arrêt, de justice ou de correction. Et comme à Saint-Afrique, il y avait un tribunal, et ben on avait aussi une prison qui allait avec. Alors au départ, elle était située dans la maison commune, donc la mairie, qui se trouvait au même endroit que l'actuelle. Et dans un état des lieux de 1789, on a un petit détail qui reprend étage par étage comment était composée cette prison. Donc au rez-de-chaussée, on trouvait 6 pièces avec 2 cachots et 4 grandes pièces pour les prévenus. Et ensuite, on trouvait aussi 3 autres pièces qui là étaient pour le logement du concierge. Donc le concierge, c'était à la fois le geôlier, l'intendant, il s'occupait de tout. Et puis ensuite, des locaux, on va dire, d'intendance pour le bon fonctionnement de la prison. Ensuite, on trouve en décembre 1819 le projet d'une nouvelle prison, en même temps qu'on commence à réfléchir à construire une nouvelle mairie. Mais c'est qu'en 1835 qu'on apprend qu'ils ont déménagé dans les nouveaux locaux. Ces nouveaux locaux, en fait, se trouvaient plus à l'extérieur de la ville, grosso modo aujourd'hui, sur un terrain qui serait à cheval entre la caserne des pompiers et l'immeuble HLM qui est juste derrière. Donc cette prison, elle va fonctionner presque un siècle, jusqu'en 1926, parce que suite à la réorganisation de la carte judiciaire en France, le tribunal de justice civile a été supprimé, et donc la prison aussi. Et là commence toute une péripétie d'affectation de la prison. 10 ans plus tard, donc en 1936, on envisage la municipalité d'y installer un patronage laïque. Alors pour simplifier, en fait, patronage laïque, c'est à la fois une sorte de salle des jeunes et une auberge de jeunesse pour les jeunes gens de passage. Et c'est donc à ce moment-là qu'on construit dans l'enceinte de la prison un court de tennis et une piscine. En 1937, on crée le comité des loisirs et des sports, qui entre autres va gérer ce bâtiment. Donc c'est en juillet 37 le comité, et le mois d'après est inauguré le patronage, qui va fonctionner jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, où là en fait, les locaux en 1943 sont attribués au secrétariat d'État à l'aviation, dans lequel ils vont loger une compagnie de sécurité aérienne, pendant un an à peu près. En août 1944, les locaux sont occupés par les FFI, donc les forces françaises de l'intérieur. Un an, quasiment jour pour jour, parce qu'on apprend en août 1945 que l'auberge de la jeunesse redémarre et refonctionne. Et ça va durer jusqu'en 1949, où là, l'auberge de jeunesse est fermée, les locaux ne sont plus utilisés, jusqu'en 1951, où la commune les rachète, afin d'y loger à la fois les ateliers municipaux et déjà les pompiers. Mais ils continuent malgré tout à conserver le court de tennis et la piscine. Et on voit d'ailleurs une lettre où il y a un club de tennis qui se forme, parce qu'il y a beaucoup de gens que ça intéresse. Et du coup, ils louent le court de tennis au club. Donc ça va durer un peu plus de 10 ans, jusqu'en 1965, où là, on décide la cession d'une partie des terrains à l'office HLM pour y construire un immeuble collectif, donc celui qu'on trouve aujourd'hui. Et ça explique pourquoi il est possible que vous entendiez des gens dire qu'ils sont allés se baigner à la prison, parce que c'est un souvenir qui a marqué beaucoup de gens qui allaient donc à la piscine dans la prison de Sainte-Afrique.
3A 246. Chronique de la Maison de la Mémoire. Avec la participation de toute l'équipe de la Maison de la Mémoire du pays saint-africain. Florian Boulet, Sophie Roumégous, Julien Cossat, Delphine Diez, Stéphane Géniès.
Et c'est Random Recipe qui va clôturer cette émission vivement ce soir qu'on se couche parce que le Zénith de Toulouse, c'est quand même sacrément loin. Le titre, c'était Stazito. C'est un CD de la semaine que vous retrouverez sur le site internet de Radio www.radiosaintafrique.com. Il est donc temps de vous dire au revoir. Vous avez pu écouter 3A 246, pas 248. C'est le principe du titre de la la chronique de la Maison de la Mémoire, c'est que personne ne s'en souvient. Voilà. Et aujourd'hui, Florian Boulet nous a appris qu'il y avait une prison à Saint-Affrique. Et oui, oui, mesdames et messieurs. Dans la chemise à rayures, Elsa Decour a donné la parole à Katia Fersing, qui est responsable du projet de collecte de mémoire autour des métiers de Roquefort, et à Nicole Pons de l'Association culturelle du Sud Aveyron, qui vous propose demain une conférence musicale sur la vie et l'œuvre de Frédéric Chopin. Côté musique, bah justement, on a eu un petit bout de Frédéric Chopin, étude en mi mineur, opus 30, numéro 3, Tristesse, par Samson François au piano. On a eu L.A.E. dans la T.I.T.I.A. de la Roulotte, un autre CD de la semaine. On a eu un petit bout de Tita Dong Dong Song de... Je ne prononcerai pas le nom. Et il paraît aussi qu'en début d'émission, j'ai divagué, j'étais encore plongée dans le souvenir du concert de... celui dont je ne prononcerai pas le nom, et que je vous ai raconté des choses un peu bizarres, mais je ne me rappelle pas très bien. Merci à Chloé à la technique, merci aux deux Elsa, Elsa Gourmand et Elsa Decour. On se retrouve vendredi à 10h10 ou à 17h10 en rediffusion. Et demain, on laisse notre place au tonton. Bonne journée à toutes et à tous. Bye.
Message conservé, message du 06 76 67 09 01, reçu hier à 21h57. I'm going to go to the hospital.